L'Express du Grand Paris. Pour aller plus vite, pour aller plus loin.
Bienvenue dans l'émission Grand Paris Express qui se tient pour une fois à l'AMIF, puisqu'il y a le salon de l'Association des maires d'Île-de-France. Tous les élus sont là et parmi les thématiques, la mobilité, le transport, ça touche à plein de choses. Également à l'aménagement du territoire, c'est pourquoi il me faut un maire qui a une vue globale. Eh bien, notre invité, c'est Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers. Patrice Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Alors, vous faites partie intégrante de ce réseau en pleine construction, le Grand Paris Express, puisque la ligne effectivement va passer dessus et vous serez affublé de deux gares. C'est d'abord une satisfaction parce que pour être sur le réseau, déjà, il fallait se battre.
Oui, oui, mes prédécesseurs Jacques Bourgoin avec son premier adjoint Roland Museau se sont bien battus. Et c'est une chance pour notre territoire que d'avoir deux gares, une dans la zone d'activité économique et une dans un grand quartier populaire.
On peut en parler un petit peu, effectivement, de ces gares. Agnette d'un côté, Grésillon. Vous pouvez parler de leur spécificité, même si elles ne sont pas encore concrètes, tangibles, mais ça va venir.
Oui, alors ça va mettre un peu de temps parce qu'on nous avait promis en 2027 l'arrivée du métro. Je ne crois pas que ce sera fait, mais ces gares sont importantes dans un grand quartier, par exemple comme celui des Agnettes, qui est un quartier en rue. Ça va être un moyen de favoriser le déplacement des habitants qui en ont besoin pour aller au travail, de banlieue à banlieue, qui en ont besoin pour faire des études, qui en ont besoin aussi pour les loisirs. Et pour ce qui est de la zone d'activité économique, c'est une chance pour assurer son développement. Et en face, il y a un quartier d'habitation à Agnières. Et donc, ça va permettre à la fois au quartier d'habitation et à la zone d'activité économique d'être mieux desservi par les habitants. Je rajoute que ce grand réseau, on va à peine rattraper les 30 ans de retard qu'à la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, sur les transports en commun. C'est-à-dire qu'il y aura encore besoin d'investir beaucoup.
Et pour vous, la Grande Couronne avait été le parent pauvre de l'aménagement du territoire.
Oui, puis il y a des enjeux environnementaux et écologiques. Il faut que les gens utilisent moins leurs véhicules. Mais pour qu'ils utilisent moins leurs véhicules, il faut des transports collectifs. Donc il y a des tramways à développer, il y a des bus, il y a de la mobilité douce avec les vélos. Et ce Grand Paris, ce Grand Paris, cette ligne du Grand Paris, la ligne 15 Ouest pour nous, est une chance pour permettre à plus de monde d'éviter de prendre sa voiture.
Alors ce monde, on en parle, on fait une plongée dans Gennevilliers. Rappelez-nous les composantes, si vous voulez bien, combien d'habitants, quel territoire?
Alors Gennevilliers, c'est une commune relativement grande pour la petite couronne puisqu'il y a 1200 hectares. Et il y a 800 hectares consacrés aux activités économiques et 400 hectares de zones d'habitation. Et dans les 800, il y a 400 hectares du port autonome de Paris, du port de Gennevilliers, qui est un lieu extrêmement important pour le développement de la région. Il y a 47 000 habitants, 41 000 emplois, et c'est une population la plus belle de France, bien entendu, et c'est une population populaire qui fait partie du monde du travail et de la création et des personnes qui ont certainement les revenus les plus bas en Île-de-France.
Alors, vous aviez accueilli l'ancien Premier ministre Jean Castex en novembre et il avait parlé justement du PAC de l'État pour accompagner le développement des villes avec des quartiers, des écoquartiers, du transport. Pourquoi sa visite à Gennevilliers, ça avait quel sens pour vous?
Alors, il était venu au théâtre de Gennevilliers parce que c'était l'endroit où se réunissait le conseil de surveillance justement de la société du Grand Paris. Et il avait fait des promesses. Et comme d'habitude, c'est souvent un peu des promesses qui sonnent bien à nos oreilles, mais qui ne donnent pas en réalité. Parce que le problème des maires aujourd'hui, quand ils construisent des logements, c'est des frais de fonctionnement qui sont développés parce que s'il y a plus d'habitants, il faut plus de places en école, plus de places en crèche, plus de places dans les différentes activités sportives et culturelles. Et nos ressources baissent. Je rappelle qu'il y a plusieurs millions qui ont été ponctionnés dans les caisses des villes. Et j'ai peur qu'ils recommencent cette fois-ci à nous faire payer la mauvaise gestion de l'État.
Il avait souhaité, Jean Castex, que ces quartiers des nouvelles gares soient des démonstrateurs de ce que sera la ville de demain. Maire depuis 2014, vous avez nécessairement une réflexion sur la ville et vous la mettez en œuvre. Vous partagiez sa conception et quelle est la vôtre, tout simplement?
Ah oui. C'est vrai que ces gares sont une chance et que l'État est poussé à ce grand projet. Et là, d'ailleurs, c'était Nicolas Sarkozy qui avait engagé cela, ensuite poursuivi par les gouvernements suivants. C'est pas ma politique, parce que je suis plutôt communiste. Mais là, sur cette question-là, c'était une bonne mesure. Et ces gares permettront vraiment d'améliorer la vie des gens. Il a fallu quand même se battre pour avoir les gares dans une ville comme la nôtre, mais aussi pour éviter que des conceptions ultralibérales fassent qu'on nous dise qu'il faut construire que des logements en accession à la propriété parce que ça, c'est rentable, il faut rentabiliser les gares. Et donc, par exemple, un des premiers actes que nous avons fait quand l'ANRU s'est mis en place, c'est-à-dire l'Agence régionale de rénovation urbaine pour le quartier des Agnettes, avec les habitants, on a manifesté pour que les tours autour de la gare ne soient pas détruites, des tours de logements sociaux, parce que les habitants de logements sociaux ont besoin aussi d'une gare du Grand Paris. Par contre, on construira, pour amener la diversification dans ce quartier, on va construire des logements en accession à la propriété, puisque c'est un quartier à 100% de logements sociaux, et donc on va construire des logements en accession à la propriété. Mais on s'est déjà battu pour que les couches populaires aient droit à ces gares.
Je reviens à cette notion de PAC de l'État, PAC État du gouvernement, rassemblant la force de frappe des acteurs publics pour innover, pour s'adapter aux services des collectivités, des projets locaux. Puis on le voit avec Grand Paris Express, il y a beaucoup d'acteurs privés hein, pour la construction, les travaux. Vous pensez que ce modèle de coopération, partenariat public-privé, c'est la preuve que ça peut marcher au service de grands projets? Vous êtes favorable à ça?
Alors, j'ai plutôt une position idéologique que contre, même si on travaille avec le privé, bien entendu. C'est pas moi qui fais, enfin c'est pas la ville qui bête.
Je rappelle que le maire de Gennevilliers est communiste. Voilà. Peut-être le rappeler pour nos auditeurs.
Et en l'occurrence sur la Société du Grand Paris, les va-et-vient sur les modes de décision et de construction de cette gare nous a fait prendre du retard et peut-être même perdre de l'argent. Donc il y a des éléments comme ça où il faudrait aussi réfléchir et pas avoir de dogme libéral justement. D'ailleurs quand on parle d'innovation. Le métro, c'est le 19e siècle. Hein. Donc, faire une métro au 21e siècle, c'est une innovation qui ressemble à celle du 19e.
Et les technologies,
et on a été capable à l'époque d'emprunter sur des dizaines d'années pour pas que ce soit les générations présentes qui payent, mais les générations futures. Et que ce soit les utilisateurs aussi qui payent ce grande infrastructure comme jamais au monde il n'en existe dans Paris. Il aurait fallu faire la même chose sur la banlieue. Le libéralisme empêche de penser cela.
Et selon vous, cette nouvelle infrastructure de transport, c'est pour se rapprocher de quoi ? C'est vrai qu'il y a, des hubs, des aéroports, il y a la capitale. Pour vous, les habitants vont pouvoir se rapprocher de quoi ? Pour des perspectives d'emploi, tout simplement ?
Quand on habite la petite couronne... Se déplacer à Paris, ça va, on a toujours un terminus de métro, mais de banlieue à banlieue, c'est une vraie galère, il faut repasser par Paris. Et bien cette ligne 15 Ouest et toutes les autres lignes autour vont permettre de faire le tour de Paris sans repasser par le centre, et donc ça va être un véritable avantage. Pour des habitants de Gennevilliers, par exemple, au quartier des Agnettes, on sera à 8 minutes de la Défense, de porte à porte, et on sera à 30 minutes de Roissy. Et donc, pour les salariés des aéroports, pour les salariés de la Défense, je rappelle que c'était à Gennevilliers que l'on avait toutes ces personnes qui avaient des métiers essentiels, qui ont désinfecté pendant la Covid les bureaux de la Défense, qui ont travaillé, plutôt arrêté de travailler d'ailleurs dans les aéroports parce qu'ils se sont mis à l'arrêt, mais les infirmières, toutes ces personnes-là, et ben d'avoir ce moyen de transport plus pratique, ça va être de meilleures conditions de vie aussi pour elles.
Alors, les gens ont besoin de se loger. Quelle est la responsabilité des départements, des régions? Parfois, ça a fluctué. N'empêche qu'il y a une pénurie de logements. Vous êtes inquiet de ce point de vue? Quelle solution recommandez-vous?
Pour ma part, je suis très, très inquiet sur le logement. C'est la plus grave crise politique, je veux dire, que l'on a aujourd'hui, puisque dans la métropole du Grand Paris, il y a 750 000 personnes qui sont demandeurs de logement et il n'y a que 70 000 logements qui se libèrent par an. Si on fait la division, ça fait 11 ans d'attente en moyenne. Quand vous êtes une femme battue, quand vous vous séparez, quand vous êtes un jeune qui veut s'installer ou que vous avez 5 enfants dans la même chambre, eh ben, ce sont des conditions extrêmement déplorables et une mal-vie qui est faite aux gens, voire même de la maltraitance d'habitants. Donc il faut construire. Et il faut construire du logement social pour répondre à cette demande. Je dis souvent, dans notre métropole, le logement social est stigmatisé, mais 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. À tous celles et ceux qui ont fait croire que le logement social était des cas sociaux et des problèmes sociaux, je les mets au défi de dire que 70% de la population d'Île-de-France sont des cas sociaux.
À Gennevilliers, quel pourcentage de logements sociaux?
Alors, je m'excuse toujours auprès des gens parce qu'on a 66% de logements sociaux, c'est 4 points en dessous de la demande.
Et vous continuez sur ce rythme?
C'est une garantie, par exemple, contre la gentrification. Si on veut que tous ces emplois essentiels restent dans la métropole de Grand Paris pour assurer le fonctionnement économique et social de la métropole, prendre soin des gens, aussi. Parce que tous les métiers de soins ou des gens, ce sont des personnes qui ne sont pas souvent bien payées et qui ont besoin de logements sociaux. Si on les écarte en faisant monter les prix, dans le privé c'est inaccessible, dans l'accession c'est inaccessible, il n'y a que le logement social qui peut répondre à leurs besoins de logement et en proximité. Donc il faut développer la construction de logements sociaux. Et qu'on ne me dise pas que c'est un problème de foncier, il se construit plus de logements en Île-de-France que l'État n'en demande. Le seul problème, c'est que ce sont que de l'accession à la propriété et très peu de logements sociaux.
Et d'ailleurs, si l'on veut lire votre réflexion sur ces sujets, je renvoie nos auditeurs sur le livre « Inventons un nouvel art de vivre populaire » aux éditions Arcane, avec cet onglet sur le logement social. Vous dites la solution contre la gentrification, vous étiez en train de l'évoquer. Quel est votre regard sur le thème de la mixité sociale ? Une belle notion, mais qu'est-ce que ça recouvre au juste ?
Pour moi, c'est une humiliation qui est portée aux gens, parce que quand on parle de mixité sociale, c'est jamais pour dire qu'il faut des riches dans nos quartiers, mais c'est qu'il y a moins de pauvres. Et donc, c'est une accusation aux gens qui ont des revenus modestes, c'est justement qui porterait toutes les difficultés de la société. On confond plein d'éléments. Et c'est même très humiliant, parce qu'on dit à des quartiers entiers, à des personnes, que ça ira mieux le jour où eux, ils n'habiteront plus là. Et puis, c'est un mythe. C'est pas moi qui l'invente, il suffit de regarder tous les travaux de sociologues et d'historiens. La mixité sociale, ça n'a jamais existé. Même l'histoire des faubourgs avec la bonne en haut et le patron en bas, c'est vraiment un épiphénomène parce qu'il y avait des faubourgs à côté et c'était la ghettoisation dans des bidonvilles ou dans des maisons quasiment insalubres. Donc c'est un mythe, cette mixité sociale. Par contre, il faut mettre les moyens là où les gens en ont besoin. Et je dirais à la limite que Gennevilliers est un bon exemple. Quand on a des ressources, des moyens, on peut faire la démonstration qu'on vit assez bien dans une ville qui développe la culture, le service public et des moyens essentiels pour les gens. Personne ne m'a prouvé, par exemple, qu'un enfant de couche populaire de Gennevilliers vivrait mieux s'il était à Asnières. Pourquoi ? Parce que nous, on a un conservatoire de musique avec des tarifs adaptés. On a des services de sport avec des tarifs adaptés. On a un service public avec des tarifs adaptés qui permettent à ces enfants d'y participer, qu'ailleurs, c'est trop cher.
Voilà. À l'issue des élections législatives, hein, vous êtes un homme politique faisant une incursion sur ce nouveau paysage, une donne inédite. Bon, le Parti communiste avait fait cause commune pour la réussite de NUP. Alors, vous êtes satisfait et quelles sont vos attentes maintenant ?
Alors, moi, je suis à la fois satisfait et très inquiet. Je suis très satisfait parce qu'enfin, l'union que je souhaitais entre communistes, France insoumise, socialistes et écologiques a pu se faire et a marqué des résultats. Et ça, c'est une bonne chose. Par exemple, la députée communiste de notre circonscription a fait 70% sur la circonscription Gennevilliers-Villeneuve-Colombes, mais 80% sur Gennevilliers. Ça montre que c'était aussi attendu par les gens.
Et donc, pour vous, le Parti communiste n'a pas perdu son âme en faisant une alliance avec un mouvement qui est assez différent sur certaines positions.
Pour moi, il perd son âme quand il refuse le rassemblement, l'union pour aider les gens. Et il ne joue pas son rôle s'il n'est pas utile pour la population pour mieux se défendre. Et là, on a bien vu qu'on a mis en difficulté le gouvernement Macron. C'est même pas les communistes qui le disent. Tout le monde le reconnaît. Même au gouvernement, ils reconnaissent.
C'est ça l'objectif.
Ils reconnaissent qu'ils sont en difficulté. Et c'est bien qu'ils soient en difficulté, Macron, après avoir été arrogant et méprisant auprès des couches populaires.
Et après ?
Il a mis les gens en difficulté. Après, on va se battre. Je pense qu'il y a le rôle à l'Assemblée nationale. Il faut que les habitants reprennent aussi des places dans des luttes, dans des exigences, et qu'on arrive progressivement à remonter un mouvement progressiste dans ce pays qui reprenne le pouvoir partout où c'est possible.
Est-ce qu'on est à la MIF hein, qui insiste et qui souligne les communes, combien les communes sont au cœur des transitions ? Vous vivez comme ça à Gennevilliers et quelle transition ? Est-ce qu'on parle de la transition écologique, numérique ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Comment vous les gérez ?
Alors pour moi, la commune est un lieu essentiel de la démocratie et de la politique parce que c'est l'endroit le plus près des habitants où les gens peuvent décider, discuter. Et je dis même, c'est même l'objet de mon livre, c'est-à-dire que les communes ne doivent pas se ressembler. Je ne demande pas aux gens de Neuilly de voter la même chose que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que les habitants de Gennevilliers. Donc chaque commune a ses particularités, parce que c'est les habitants qui leur donnent. Et après, on peut être premier il faut qu'on soit premier sur... Moi, je ne parle même plus de transition écologique, parce que c'est trop tard, il fallait faire la transition il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est de rupture écologique qu'il faut faire. Il faut travailler une décroissance à l'échelle de nos villes, faire baisser notre consommation de ressources naturelles, d'énergie. et puis inventer un nouvel art de vivre avec beaucoup de frugalité qui peut être heureuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans une société de consommation à tout va, où on change tout le temps, mais on peut réparer. Et de ce point de vue, les couches populaires peuvent être à l'avant-garde parce qu'ils savent réparer, ils savent faire des économies, ils savent faire attention aux choses parce qu'ils y sont obligés déjà. Et puis on peut être heureux, pas forcément qu'avec le règne de l'argent, mais est-ce qu'on peut être heureux parce qu'on peut rechercher du bonheur, bonheur avec les autres, de partager et dans un cadre solidaire.
Merci Patrice Leclerc d'avoir été l'invité de Grand Paris Express alors que nous sommes à la MIF 2022. Merci de votre attention.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.